grande matinale, le mag, c'est parti pour une heure de culture et de société. Je vous embarque jusqu'à 10h. Charline Vanhoenacker, tout à l'heure, ira faire un tour avec les soldats français au Groenland, avec Daphné Burki. Eh bien, nous apprendrons les bonnes manières. Et à 9h25, vous retrouverez le débat du jour. 20 janvier 2025, Donald Trump prêtait serment et un mouvement était lancé pour boycotter le réseau social X, anciennement Twitter, propriété d'Elon Musk. L'idée, ne plus alimenter une machine à véhiculer de la haine et du complot. Un an après, on tente un bilan de cette action qui a beaucoup divisé. Fallait-il quitter X ? On va en discuter. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Alessandra Sublet fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Elle plaque ses études, monte à Paris, gravit chaque petite marche de la radio, puis de la télévision. Lance en 2009 un minuscule talk show, C'est à vous, devenu un rendez-vous incontournable du PAF, fini sur TF1 à animer d'énormes prime time, puis décide d'arrêter la télé, monte un seul en scène dans lequel elle raconte toutes les bourdes qu'elle a faites en direct, mais aussi à quel point ça fait du bien d'assumer ce qu'on est. Entre-temps, elle raconte son baby blues, puis son divorce, ce qui l'a conduit à dire « J'emmerde Cendrillon », à passer son permis moto et à piloter des hélicos. Et maintenant, mesdames et messieurs, elle écrit un roman, portrait numéro 75. Elle-même, elle en rigole. Bonjour Alessandra Sublet.
Dit comme ça, bonjour Tania,
bah oui.
Bonjour à tous.
Toi que je n'attendais plus, paraît aux éditions Robert Laffont. Manon, 40 ans, océanologue, divorcée, deux enfants, fille d'un marin disparu en mer 20 ans auparavant. Elle embarque pour une expédition au mythique Cap Horn. Le Cap Horn. Pourquoi le Cap Horn ?
D'abord parce que c'est un voyage que j'ai fait il y a quelques années, qui a été fantastique. Je rêvais de voir le Drake. Le Drake, c'est cette confrontation de deux océans qui sont l'Atlantique et le Pacifique. Et j'avais vraiment ce rêve de gosse. Et quand j'y suis arrivée, quand j'ai eu la chance de pouvoir monter, parce qu'il faut que les éléments vous le permettent, j'ai été subjuguée.
Subjuguée. Écoutez Isabelle Autissier qui le raconte. Le Cap Horn, elle l'a passé à la voile.
On dit beaucoup que c'est l'Himalaya des marins. C'est quand même un endroit où beaucoup, beaucoup de marins ont chaviré, ont coulé. Quand on est devant, on est juste médusé, on est juste subjugué parce que c'est beau. C'est quand même de la montagne, très escarpée, très torturée, comme ça, des falaises. Derrière, il y a ces arrière-plans de forêts primaires patagoniennes. Il y a les glaciers, il y a les hauts sommets tout déchiquetés. Enfin, tout ça est quand même très, tout à fait magnifique.
Isabelle Autissier qui raconte le Cap Horn. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusée, c'est qu'à la fin du roman, Alessandra Sublet, il y a comme une sorte de mise en garde, c'est-à-dire, j'ai écrit de la fiction, on ne passe pas le Cap Horn aussi vite et aussi facilement que dans le roman.
Non, évidemment, on ne va pas si vite des canaux chiliens empruntés par Magellan voilà. Jusqu'au Cap Horn. Je rectifie cette vérité, effectivement, parce qu'autrement, on allait me tomber dessus.
Voilà, alors évidemment, ce voyage que fait Manon, c'est le moment de voir ressurgir des fantômes, de faire renaître des désirs, de retrouver un sens à sa vie. On va en parler, mais d'abord, fallait oser.
Quoi ?
Se lancer dans un roman.
Encore un challenge de plus.
Bah ouais.
Écoutez, je pense, Sonia, que je le dois beaucoup à mon éditrice Sophie Charnavel qui nous a quittés pendant l'écriture de ce roman. Je lui ai envoyé deux premiers chapitres et je lui ai dit « t'en penses quoi ?» Et il fallait la connaître, mais elle m'a répondu par mail « c'est toi qui as écrit ça ?» Et donc, du coup,
point d'interrogation,
oui, j'ai pris ça comme un génial. Et donc, elle m'a dit, mais go, go, go. Et
parce que vous lui dédiez un très joli petit texte à la fin du livre. Mm-hmm. Moi, j'ai pas connu cette femme qui était la patronne de Robert Laffont, mais on reçoit beaucoup, beaucoup de gens de l'édition qui sont là en coulisses, dans les petits salons de France Inter qui accompagnent les éditeurs.
C'est bien du rendre hommage.
Les invités. Et je sais que quand elle est morte très jeune d'un cancer fulgurant, tout ce métier était très, très bouleversé.
Ouais, bouleversé. Et puis moi, elle a accompagné Tal Blues Baby à l'époque chez Flammarion. Elle a accompagné Jean-Mère Cendrillon. Les deux
récits d'un baby blues, récits d'un divorce.
Ouais, et puis voilà, comment décomplexer les gens face à ces épreuves-là, entre guillemets. Et donc, un premier roman, je savais qu'elle allait être très objective et qu'elle me dirait oui ou merde. Et donc, en fait, forcément, ces encouragements m'ont aidé. Maintenant, quelle aventure ! Quelle aventure ! L'écriture d'un roman, c'est extraordinaire. C'est l'aventure dans l'aventure.
Alors, Jean d'Ormesson, académicien, invité de C'est à vous, à l'époque où vous animiez ce talk show sur France 5.
J'essaye de montrer que tout ça est peut-être exprimé avec beaucoup de simplicité, avec des mots très simples. Oui. Je crois que mon livre peut être lu par un enfant de 10 ans.
Je peux vous dire déjà qu'il peut être lu par moi, donc tout va bien.
Et ouais. Mais c'est merci de cet extrait. Jean d'Ormesson faisait partie de ces personnalités que j'adorais recevoir. On prenait beaucoup de temps pour discuter. Ce sont les plus érudits, les plus ouverts d'esprit qui m'ont élevée dans ma vie professionnelle. Il en fait tellement partie. Merci.
Oui. Mais c'est surtout un écrivain.
Oui, le
lui
par moi. À qui vous dites de manière extrêmement sincère, quitte à le dire à l'antenne, je n'arrive pas à finir vos livres. Ou alors, tout le monde n'arrive pas à finir vos livres. La lecture, c'est parfois difficile. Mmh. Et ça, c'est des choses que vous assumez à ce moment-là, publiquement, alors que, parallèlement, vous en prenez plein la figure. Enfin, je veux dire, paix à l'âme de Thierry Ardisson. Mmh. Mais Thierry Ardisson se lance dans une campagne de clash tous azimuts pour dire « Alessandra Sublet, visage du service public, mais elle est complètement inculte ».
C'est marrant, le slogan de France 5 à l'époque, c'était « La chaîne de la connaissance et du savoir, je sortais de l'amour et dans le pré », donc certains pouvaient
sur
t'arrêter.
M6.
Et, voilà, sur M6, et je le comprends. La culture n'est pas une toise de 0 à 10 où l'on note des gens. Moi, on m'a laissé très longtemps à moins 2. J'ai toujours crié haut et fort que je préférais Top Gun, Bridget Jones et Julia Roberts à Truffaut, Hitchcock, mais pourtant ça ne m'a pas empêché de connaître par cœur certaines de leurs répliques en interview. La verve d'un Hitchcock quand il disait que la durée d'un film devait dépendre de la durée d'un film devait dépendre de la vessie humaine, ou encore je ne sais pas moi, la magie d'un Truffaut quand il dit les femmes sont magiques, je suis devenu magicien. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas écouter France Inter, Nova, et d'un autre côté Europe 1 et RTL2. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir été sur le service public et d'un autre côté sur TF1.
Bah, bien
j'aime
sûr
pas
que
les
si.
Étiquettes, Sonia, ça m'emmerde.
Bah, bien sûr que si, ça l'emmerde. Voilà. Mais c'est l'image de quoi? D'une télé qui, à l'époque, se nourrissait de clash et qui, aujourd'hui, se sont déplacées sur les réseaux sociaux?
Oh, je pense qu'elle s'en est toujours nourrie et c'est le jeu ma bonne Lucette. Vous ne pouvez pas faire un métier public et venir derrière vous plaindre de prendre des balles perdues. J'ai jamais eu de problème avec ça et je l'ai toujours dit d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il y a
vous
qu'un truc.
Vous n'avez jamais eu de problème à prendre des balles perdues?
Non, j'en ai jamais eu. Et je vais vous dire pourquoi.
Parce que c'est le prix à payer, forcément.
Parce que non, c'est pas le prix à payer, c'est le choix que vous faites. Plus vous grimpez dans les médias, plus forcément vous êtes en première ligne, au front. Donc en fait, il faut pas s'en plaindre. Moi, j'étais très heureuse d'être au front. J'avais de l'ambition, j'avais envie. D'ailleurs, ce n'est pas un vilain mot, je le place au passage. C'est important d'aller au bout de ses envies. Mais j'en ai chié, j'ai pas d'autre mot. Et d'un autre côté, je m'en suis pas plaint. Je pense qu'il y a qu'un truc qui vaut, c'est le travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur C'est à vous. Toutes les critiques ont été monstrueuses au départ, y compris d'une misogynie sans nom. Et il n'y a que le travail qui paye, point barre. Quand les audiences sont là, tu peux que fermer ta gueule. Ben, c'est la vérité. Pardonnez-moi, c'est la vérité. J'ai pas d'autres mots. Ça sert à rien de mettre en avant d'autres arguments.
Je vous ai sorti Top Gun.
Je vous aime.
Allez, Top Gun.
Excuse me, Lieutenant. Is there something wrong?
Yes, ma'am. The data on the MiG is inaccurate.
How's that, Lieutenant?
Well, I just happened to see a MiG-28. We happened to see a MiG-28 do a 4G negative dive.
Where did you see this?
That's classified.
It's what?
It's classified.
Mais sincèrement, sincèrement, c'est devenu culte.
Bah oui.
Mais oui, mais moi j'adore, ça fait du bien. Vous voyez ma petite tête là?
Oui, je la vois, votre petite
tête. Mais la vôtre aussi, non?
Oui, absolument.
Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il était.
Donc c'est Top Gun.
Il est toujours.
Ouais.
Mais pas autant que mon mari.
Vous voulez nous raconter votre mari?
Pas du tout, je le plains,
pas du
parce
tout.
Qu'autrement c'est il va me dire encore Tom Cruise.
C'est dans toute la presse que vous venez de vous remarier.
Oui, juste parce que j'ai dédicacé mon livre à mes enfants et mon mari. Hein. Il ne faut pas aller plus loin que ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le font, on n'en fait pas des caisses. Alessandra Sublet s'est mariée, wouh!
Alessandra Sublet a quand même écrit un livre qui dit « J'emmerde Cendrillon
oui. ».
Alessandra Sublet a quand même raconté pourquoi on divorce une première fois, pourquoi on divorce une deuxième fois, pourquoi les rêves de petite fille et les contes qu'on nous avait racontés dans la réalité, c'est pas tout à fait
On nous a jamais montré Cendrillon en jogging, en tout cas.
Non, voilà. Mais alors pourquoi Cendrillon, elle va se remarier une troisième fois? Elle fait comme Liz Taylor?
Ben, Alors, Liz Taylor avait de bonnes raisons de se remarier, parce qu'elle n'était pas tombée vraiment sur les bons, quand même, le premier la battait. Et j'adore, alors, on en parle, j'adore Elizabeth Taylor. Je suis une indécrottable romantique, d'ailleurs ce roman le montre aussi. Ouais. Je pense heureusement qu'il y a toujours de l'espoir, quel que soit l'âge qu'on a, et c'est merveilleux de tomber amoureux, et je suis très heureuse de ça.
Voilà, alors là on était en train d'écouter Top Gun.
Ouais.
Tout ça pour se demander si c'était Top Gun qui vous avait donné envie de piloter.
Ah non,
envie alors... de conduire des grosses motos.
Ouais.
Non, c'est pas non, Tom Cruise.
Non, c'est pour éviter de monter derrière Tom Cruise. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir mon petit bolide, si c'est possible. Piloter des avions n'était pas un rêve de gosse, c'était un challenge. Et en fait, ça correspondait à un moment de ma vie où je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'élever, au sens propre comme au sens figuré. C'est dingue quand même. Et ça a été une tanasse pour moi, parce que il y a deux examens d'une heure et demie à la DGAC qui sont de la théorie pure et dure avec des maths, entre autres, et j'étais nulle à l'école. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris des cours de maths. C'est pour montrer aussi que c'est possible, qu'on peut aller au bout de ses envies. On peut vraiment se donner les moyens. Vous savez, l'être humain est extraordinaire. On a une machine, on a un corps, une tête, un cœur, mais vous vous rendez pas compte, on est extraordinaire. Et quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience qu'on peut pousser cette machine, c'est merveilleux.
Vous êtes une complète autodidacte.
Bah, je pense, mais je ne me suis jamais revendiquée en tant que telle. Juste, bah, j'ai
ça,
envie, je
qualité.
Fais. Oui, c'est
vous,
vrai.
Vous décrochez un bac au rattrapage en négociant
vraiment,
un point.
À l'arrache au bout de deux ans, oui.
Voilà, un point, le point qui vous manquait en géo.
Ouais.
Vous plaquez vos études, vous montez à Paris.
Enfin, je ne les plaque pas, elles me plaquent. Hein. Je n'étais pas du tout faite pour mes études. En revanche, j'étais le vilain petit canard, puisque tous mes collègues, tous mes copains de classe allaient faire des études. Donc déjà, d'entrée de jeu, il y avait un problème. Et d'ailleurs, je le dis à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est important, c'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire. Moi, j'ai su qu'à 26 ans. Et aujourd'hui, on a une telle pression auprès de nos jeunes pour leur expliquer par A plus B qu'il faut absolument choisir un métier. D'abord, vous pouvez en choisir 10 tout au long de votre vie. Et c'est pas grave si vous ne savez pas. Moi, j'ai été longtemps, sincèrement, brocardée comme étant la pauvre meuf qui savait pas ce qu'elle voulait et qui faisait hôtesse, serveuse, femme de ménage, je sais pas, tout ce que vous voulez. En attendant, ça m'a permis de voyager et des années après, d'écrire un roman où je me suis éclatée à aussi écrire un roman d'aventure. Donc il faut s'enrichir comme on peut.
D'aventure et de voyage, parce que je reviens à Top Gun, et c'est ça qui est génial quand je vous interview, c'est qu'en fait on n'arrête pas de faire des digressions, et c'est totalement passionnant. Je reviens à Top Gun. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui revient tout le temps dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, c'est que le mouvement crée la chance. Et donc c'est quand même l'histoire d'une fille qui pilote des avions, qui pilote des hélicos.
Des hélicos non, parce que c'est...
Mais ça va venir.
Trop cher, oui. C'est trop cher, je le dis, c'est trop cher. Là.
Mais... Bref, qui bouge.
Oui, parce que le mouvement crée la chance.
Le mouvement crée la chance, mais à propos de ce livre, c'est quand même l'histoire d'une femme qui a besoin d'embarquer, qui a besoin de partir, qui a besoin de naviguer, qui a besoin de naviguer à la voile. Elle est un peu moins polluante que vous, Manon.
J'ai pas eu le choix.
C'est ça. Pourquoi ?
J'ai pas eu le choix, parce que pour emprunter ces canaux chiliens, aller au Cap Horn, il faut être un grand marin. Je ne le suis pas. J'ai tellement d'admiration, justement, pour ces hommes et ces femmes qui prennent la mer, que quand on arrive dans un endroit mythique comme le Cap Horn, je vous assure qu'après, quand vous entendez le vent des globes, la transatlantique ou je ne sais quoi, et que vous entendez que ces marins passent par là, vous dites « Oh, waouh !» Là, c'est des surhommes. Ce sont les héros des temps modernes.
Mais la leçon, c'est qu'il faut partir.
La leçon, c'est
qu'il faut savoir... quitter.
Il faut faire des choix.
Larguer les amarres.
Voilà, la leçon, c'est que larguer les amarres, le Cap Horn, c'est aussi la tourmente. Il faut savoir faire des choix. Si on ne fait pas de choix, on subit ce que l'on vit. Et c'est pas possible. C'est exactement comme savoir dire non, Sonia. Il faut savoir dire non. C'est très difficile. Moi, pendant longtemps, j'ai pas su dire non. On pense à tort que dire oui, c'est se mettre dans un confort comme ça. Mais en fait, dire non, c'est commencer par prendre le taureau par les cornes pour soi et se dire « Ok, je fais des choix ». Ne pas en faire, c'est un choix. Mais il y a deux équipes. Hein. Moi, je dis souvent, il faut à un moment donné sauter de cette falaise. On ne sait pas ce qui nous attend tout en bas, c'est vrai. Mais il y a deux équipes. Il y a ceux qui, toute leur vie, se diront « Et si ?» et ceux qui, comme moi, se diront « Merde, je me suis encore
mais
plantée,
ça,
mais au moins j'aurais essayé. »
Alors que vous êtes en prime sur TF1 tous les soirs.
Mais ça, encore une fois, c'est une question d'envie. C'est pas une question de prime, c'est pas une question de confort financier. Oh, vraiment, si j'étais restée à la télévision, ça aurait été beaucoup plus confortable.
Ah, c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de notoriété, beaucoup de lumière. C'est tout ce que normalement on ne quitte pas et tout ce que normalement on s'accroche jusqu'à en crever pour justement ne pas en être privé.
Sauf qu'il faut à un moment donné se poser la question et être en quête de sens. Et moi, ça a été un besoin vital. J'ai fait ce voyage en Patagonie, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est pas pour rien. Partir sur ces terres qui ont été traversées. J'étais partie avec le roman de Stéphane Zweig, Magellan. Et je trouve ça formidable d'aller à la quête de soi. C'est ça aussi. Partir au bout du monde pour se retrouver, mais partir au bout de soi aussi pour se retrouver.
Minute freudienne, okay. D'accord ?
Ah, voilà.
Pourquoi dans ce livre, où il y a aussi une histoire d'amour,
oui,
très belle,
oui,
forcément, avec une scène sensuelle, torride, un moment où deux corps se rencontrent.
C'est magique, non ?
Pourquoi ce mec a le nom de votre petit garçon ?
Bah juste parce que c'est un clin d'œil, elle n'a rien cherché d'autre.
Mais non,
bah quoi,
non,
vous voulez dire que c'est le complexe d'Œdipe à l'envers ?
Exactement,
non, je vais
il
vous
va
expliquer.
Faire des années de psychanalyse, cet enfant.
Oh non, il est bien dans ses bases, mon Alphonse. Non, c'est parce que, oh non, ça ne va pas si loin chez moi. Ça ne va pas si loin. Vous savez, ça c'est le problème des gens intelligents et je ne le suis pas. C'est que je ne me pose pas autant de questions, Sonia. peut-être vous devriez vous faire de même.
Peut-être. Mais moi, je m'allonge, hein, trois fois par semaine. Et ce roman, il n'est pas complètement oedipien. C'est quand même pas l'histoire d'une femme qui cherche son père disparu, qui va le chercher jusqu'au bout du monde pour retrouver du sens à sa vie.
C'est vrai. Ouais, c'est magnifique. C'est aussi moi je sais pas s'il faut pousser ce rapport-là à l'extrême comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai interviewé beaucoup de gens qui n'avaient pas pu faire le deuil de leurs proches parce que ce sont des gens qui n'étaient pas retrouvés, qui étaient portés disparus, et c'était encore plus dur que de porter un deuil, c'est-à-dire de voir physiquement quelqu'un et de pouvoir l'enterrer. Et moi, j'aime bien aussi ce biais-là. C'est génial d'écrire un roman aussi pour ça, d'explorer des pistes comme celle-ci, que je n'ai pas vécue, je tiens à le dire, parce qu'encore une fois, il ne faut pas tout mélanger.
Non,
c'est de la fiction.
C'est là où vous avez pris un plaisir fou.
Absolument.
Ouais. Mais vous avez cherché votre père ?
Non.
Longtemps ?
Non, j'ai la chance d'avoir un père extraordinaire qui était qui a toujours communiqué avec nous, qui communique encore, hein, parce qu'il est toujours là. J'ai eu la chance, Sonia, de grandir dans un foyer aimant. Un père et une mère qui aiment. Ça paraît dingue à dire, mais c'est une vraie chance. Et c'est une vraie chance d'avoir eu aussi des parents qui m'ont soutenue dans toutes mes aventures, y compris quand vous avez une gamine à la fin de son bac qui dit « Ok, je me tire en Afrique du Sud, pourquoi faire ? Je ne sais pas. Ok, démerde-toi. Juste Internet Café tous les trois jours, tu nous donnes des news. » C'est fantastique, je ne sais même pas si je pourrais faire ça avec mes enfants, je serais peut-être au bout du rouleau de ne pas avoir de news, ne serait-ce que 24 heures.
Alessandra Sublet, toi que je n'attendais plus, elle a pris un plaisir fou à l'écrire, vous prendrez sans doute un plaisir fou à le lire. Ça paraît chez Robert Laffont, c'est donc un premier roman, peut-être qu'il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y aura d'autres seuls en scène, puisqu'il y avait eu un seul en scène qui s'appelait « Tous les risques n'ont pas la saveur du succès ».
Exactement. C'était un seul en scène qui m'a permis de mettre un point final à ma carrière d'animatrice aussi, de transmettre des messages importants que sont effectivement savoir faire des choix, savoir dire non, etc. Avoir son libre arbitre, c'est important. Et surtout, d'arrêter de faire sa vie en fonction du regard des autres. Quant au roman, écoutez...
J'adore. Elle monte sur scène devant une salle pleine, il la regarde.
Mais c'était génial.
Et je vous le dis, j'arrête de faire ma vie devant le regard des autres.
Oui, mais oui. Et je suis très heureuse de ne plus être dans la lumière. C'est vrai.
Allez, Juliette Gréco, un petit poisson, un petit oiseau. Et puis juste après, le débat, fallait-il quitter Twitter, fallait-il boycotter Elon Musk ? Merci Alessandra, si vous voulez.
Merci Sonia.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages. On regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel, bien plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage. Des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, 1966. C'était la grande, l'immense Juliette Gréco dans le Mac de la matinale. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur France Inter, à 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Vous avez vu que l'Europe a envoyé des soldats au Groenland pour contrer les États-Unis. Nous sommes en 2026, cette phrase existe. Donc en 2027, les Inuits viennent filer un coup de main au Sahel, certainement.
Oh là là. Et Daphné Burki, bonjour. Et
bonjour, bonjour. À 9h50, il faut absolument que je vous présente ma nouvelle tête. Elle s'appelle Hélène Meyer, elle est créatrice de bijoux et nouvelle star des réseaux sociaux. Ça, je peux vous dire que ce n'était pas prévu. Elle publie un manuel de savoir-vivre. On va réviser notre code de conduite, les amis.
On va apprendre les bonnes manières.
Allez.
On va apprendre les bonnes manières. 9h29, sur France Inter, c'est l'heure du débat du jour.
Thank you. Elon Musk, le bras en l'air face à la foule lors de l'investiture de Donald Trump. Un geste qui a fait peur.
Attendez, Musk vient-il de faire un salut nazi ?
20 janvier 2025, donc, Donald Trump prête serment. Le milliardaire libertarien Elon Musk, soutien du président, se tient au premier rang. C'est le jour symboliquement choisi pour déserter la plateforme d'Elon Musk, X, qu'on appelait avant Twitter. À l'époque, ça avait beaucoup divisé. Pour les uns, il fallait cesser d'alimenter cette machine à charrier de la haine complètement dérégulée. Pour les autres, il fallait célébrer, au contraire, ce lieu d'entière liberté d'expression. Bilan, un an après, l'appel au boycott de ce réseau social a-t-il été efficace ou a-t-il tourné court? Fallait-il ou non quitter X?
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre avec David Chavalarias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'EHSS, auteur notamment d'Elon Musk en 50 tweets, au seuil, et co-initiateur de ce mouvement Hello Quit X. C'était cet appel au boycott de Twitter, on va en faire le bilan avec vous. Tristan Mendès France, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférences associées à l'Université Paris Cité, spécialiste des cultures numériques, ancien chroniqueur à France Inter, pour tous ceux qui ont votre nom et votre voix dans l'oreille. David Chavalarias, avant de faire le bilan, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la logique qui vous a conduit à l'époque, il y a un an, à lancer cet appel au boycott?
Alors, c'était surtout une alerte pour dire que X allait rentrer dans l'administration américaine à travers Elon Musk qui allait faire partie du Doge et que nécessairement le réseau allait être instrumentalisé notamment pour des ingérences électorales comme ça l'avait été le cas pour les élections américaines et que le réseau lui-même allait complètement échappé à toute régulation puisqu'il allait être protégé maintenant par l'État américain. Et donc c'était vraiment de dire attention, ce réseau est en train de devenir dangereux pour la démocratie et les individus, ouais. Et il faut arriver à trouver des alternatives.
Alors bilan, en gros, que vous pouvez nous donner comme chiffre qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça a donné?
Alors le bilan, très rapidement, il faut quand même faire le bilan de X lui-même pendant en deux mots, hein, sur un an quand même. Ça a été un tremplin pour des théories complotistes comme par exemple l'affaire Jean-Michel Trogneux. C'est une entreprise dont l'IA fait du négationnisme et de la pédopornographie.
Jean-Michel Trogneux, c'est Brigitte Macron, serait un homme.
Voilà. Donc son IA fait de la pédopornographie, du négationnisme. C'est un réseau qui facilite les ingérences, notamment Elon Musk est intervenu dans les élections en Allemagne en soutenant l'AFD, le parti d'extrême droite, au Royaume-Uni, en soutenant les mouvements aussi d'extrême droite. Et X assume ne pas respecter le droit français et a refusé notamment de répondre aux réquisitions du parquet de Paris. Donc c'est quelques exemples parmi d'autres. Donc ensuite, qu'ont fait les utilisateurs. Ce que l'on voit, c'est que X a perdu des utilisateurs en France. La France est le premier pays où il y a eu une fuite d'utilisateurs. C'est perdu progressivement, même si on s'appuie sur le rapport de transparence de X, c'est de l'ordre de 10% en un an. Médiamétrie vient de publier un rapport où il dit que X est sorti du top 50 des sites les plus visités.
Ah ouais.
Et il est au même niveau que Reddit en France. Et donc la France, en gros, a été devant et leader dans le fait d'aller investir d'autres réseaux sociaux.
Et quand on dit perdu des utilisateurs, ce sont des gens qui ferment leur compte ou ce sont des gens qui les laissent en déshérence et qui ne les utilisent plus ?
Alors, il y a les deux. Et surtout, il y a aussi un renouveau des utilisateurs. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une perte nette en termes de volume, mais cette perte est plus importante pour certaines catégories d'utilisateurs parce qu'il y a aussi un gain plutôt vers des utilisateurs de côté extrême droite.
Je passe la parole à Tristan Mendès-France. Vous qui avez énormément documenté ces dernières années tout ce que décrit David Chavalarias, et vous l'avez expliqué souvent au micro de France Inter, c'est-à-dire comment X a été un terreau très favorable à véhiculer de la conspiration, du complot, du mensonge, de la haine antisémite, de la haine raciste, de la haine homophobe. Vous avez fait le choix de rester.
Oui, effectivement. D'abord parce que c'est un extraordinaire lieu d'observation pour moi, des radicalités en ligne. Franchement, c'est extraordinaire à observer. Mais ce que je voudrais dire, c'est surtout que X aujourd'hui est... Alors, c'est à la fois le symptôme et un accélérateur d'un problème. X... la puissance de X aujourd'hui, c'est qu'il est fait écho à l'état du monde tel qu'il est. Il y a un demi-milliard d'utilisateurs et des utilisateurs dont le centre de gravité tourne plutôt à l'extrême droite, et il y a une dynamique planétaire d'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est que...
Mais alors pourquoi ne pas quitter ce réseau, vous qui n'êtes pas d'extrême droite ? Ok, ouais. C'est un objet d'étude, vous n'en êtes pas moins citoyen engagé et comment dire, un homme conscient, éclairé. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas quitter X, et surtout, pourquoi est-ce que vous considérez que c'est un échec, cet appel au boycott ?
Alors, c'est un échec pour, je dirais qu'en tout cas, le political statement qui a été fait avec cette initiative est parfaitement louable. C'est un acte politique, il faut l'exprimer, il faut critiquer. Mais... Alors, après, il y a la réalité des usages. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à X. Il y a un demi-milliard d'utilisateurs. C'est un réseau qui regroupe effectivement la plupart des médias de la planète, des journalistes de la planète. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet réseau, tout simplement. C'est que quand on est le numéro un des plateformes de services d'information, entre guillemets, en ligne sur les réseaux sociaux, eh bien, la probabilité que vous ayez un compte qui vous intéresse sur ce réseau-là est beaucoup plus fort que sur n'importe quel autre. Et quand il y a des tentatives de création de sites ou de réseaux sociaux alternatifs, ils sont handicapés par le fait que il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas ceux qu'on voudrait suivre. Donc, il y a un effet d'emballement.
Donc, c'est toujours là que ça se passe.
Malheureusement, c'est la réalité.
C'est toujours là que ça se passe.
Malheureusement, aujourd'hui. Et dernière chose, il n'y a pas un demi-milliard de néo-nazis sur X. L'utilisation de X, pour l'essentiel, c'est plutôt récréatif. C'est des cultures populaires qui s'expriment dessus. Il n'y a pas que ça. Et ce qui fait que, même si, disons, les personnes responsables ou tout le monde devait quitter, il y a quand même encore un socle de gens qui utilisent encore X de façon récréative. Et ça, c'est difficile d'assécher ce pool d'utilisation.
David Chavalarias, est-ce que justement vous vous êtes heurté à un mur, puisque Tristan Mendès-France reconnaît que c'était louable comme intention, mais maintenant, est-ce que concrètement c'est un échec ou pas ? Est-ce que vous vous êtes heurté à un mur, à savoir, il n'y a pas d'alternative ?
Alors, non, pas du tout. Alors, on s'est heurté au mur de l'extrême droite qui nous a attaqué très violemment parce qu'elle ne supporte pas qu'on les prive en fait d'un espace qui les favorise. Et ça, on a eu des attaques très, très violentes à la fois sur X, mais à l'Assemblée nationale, dans tous les médias Bolloré, etc. Mais sinon, en termes des utilisateurs, il y a quand même eu un mouvement. Et le mouvement, en fait, évidemment, ça se fait pas en un jour, mais il y a eu que c'était pas juste une sensibilisation. On a développé un outil concret qui permet de passer de X à d'autres réseaux ouverts qui, eux, se sont beaucoup développé ces derniers mois, notamment Blue Sky et Mastodon. L'idée, justement, comme le disait Tristan Mendès-France, c'est que c'est difficile de partir d'un réseau si vous perdez toutes vos connexions et tout l'environnement social que vous avez construit dessus. Et donc, on a développé, avec l'Institut du système complexe au CNRS, une plateforme qui vous permet justement de partir avec votre communauté. Et ça marche bien. On a déjà beaucoup de personnes qui sont parties, des milliers de personnes, et on continue à développer maintenant de nouveaux services. Par exemple, un GPS du web social qui permet de s'orienter sur ces environnements. Et ça, c'est un service qui est développé donc, dans l'esprit du droit européen, puisque l'Europe préconise cela, notamment pour favoriser la libre concurrence entre réseaux. Et ça, c'est vraiment une clé majeure pour sortir de ces
infrastructures. Donc ça, c'est des outils que vous proposez gratuitement
au
grand public, c'est-à-dire, voilà, un mode d'emploi pour quitter un réseau social sans perdre. C'est exactement comme quitter un opérateur téléphonique sans perdre son carnet d'adresses et ses numéros.
Exactement. vrai. Exactement, c'est sur gps.social, vous y allez, en une minute, vous vous référencez ailleurs, et après, vous enclenchez en fait la migration de votre environnement social vers d'autres réseaux.
Tristan Mendes-France, est-ce que ça n'est pas prendre le risque, vous qui trouvez qu'il ne se passe pas grand-chose sur Blue Sky et sur Mastodon par rapport à Twitter, est-ce que ça n'est pas prendre le risque aussi de ne plus savoir ce qui se passe sur Twitter, c'est-à-dire de ne plus savoir ce qui se passe au centre du jeu de 500 millions d'utilisateurs, donc de perdre en fait le pouls d'une certaine manière de la planète.
Alors bon, quand on est un observateur des radicalités, évidemment c'est... Pour moi, c'est absolument essentiel de rester encore dessus. Pour les gens, j'allais dire vraiment, tout le monde qui veut aller sur une plateforme, je ne les incite pas à aller sur X. C'est vraiment le lieu de la toxicité, du trolling.
Ah, vous le reconnaissez
Ah bah oui, ça, il n'y a pas... Si jamais vous aviez, disons, une moindre teinte politique, si vous vous exprimez... politiquement, hein, sur X, il faut avoir le cuir extrêmement épais. C'est d'une virulence et d'une violence absolument folle. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que...
Disons, et donc, étant inscrit et en participant à ce réseau, on alimente la machine. Vous alimentez la machine. Vous alimentez Elon Musk et un projet qui est à la fois un projet numérique et un projet politique.
Oui, parce que, bon, encore une fois, il y a la réalité des usages. Hein, c'est toujours la même chose. C'est que, évidemment, moi, je dénonce X tout le temps. Et souvent, j'ai des commentaires qui me disent « Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais sur cette plateforme hein. ?» mais il y a encore une fois la réalité des usages. Et la réalité des usages, c'est quand il y a 500 millions de personnes qui utilisent une plateforme, bon, bah, il y a évidemment un intérêt à y être, pour suivre, pour interagir. Moi, les personnes avec qui j'interagis sont des gens normaux. Hein. Évidemment, je me fais troller, je me fais insulter, je me fais menacer, évidemment,
donc,
sur la plateforme.
Donc, le constat que vous faites, c'est qu'en réalité, ni aux États-Unis, ni en Europe, on a été capable de construire un vrai pare-feu, c'est-à-dire un nouveau réseau social qui a la puissance de ceux que des esprits bien intentionnés dénoncent ?
Alors pour l'instant, encore une fois, c'est une question de volumétrie. S'il faudrait qu'il y ait un équivalent en face avec suffisamment de monde pour qu'on puisse s'y retrouver. Il y a un seul niveau sur lequel on peut effectivement lutter contre X aujourd'hui, c'est le niveau de l'Union européenne. Il n'y a que l'Union européenne qui peut être un nuage noir dans l'avenir, enfin en partie être un nuage noir pour l'avenir de X aujourd'hui.
Mais là, on parle de régulation.
De
on
régulation.
Parle absolument pas des utilisateurs au niveau des utilisateurs.
Oui, et simplement, il y a deux bémols à cette régulation. Pour moi, c'est vraiment le nuage noir qui pèse au-dessus de X aujourd'hui, mais il y a deux grandes limites. Un, c'est le bouclier Trump. C'est que Trump a exprimé très clairement le fait que si on touchait un cheveu de ses fleurons numériques, il allait taxer, bombarder de taxes l'Union européenne. Et la deuxième, c'est que l'Union européenne n'avance pas unie. Il y a une désunion politique avec une dynamique de l'extrême droite au sein de l'Union européenne. Et l'extrême droite est en phase idéologique sur la non-réglementation de la plateforme.
David Chavalarias, vous allez réagir sur la question de la régulation et les pare-feux européens, etc. Mais d'abord, vous voyez bien que concrètement, vous avez beau proposer des outils gratuits à la disposition du grand public pour pouvoir les aider. Mais si on s'ennuie sur Blue Sky ou sur Mastodon ou sur d'autres, s'il ne s'y passe rien, si c'est pas là qu'on apprend tout ce qui se passe en temps réel, que voulez-vous que les gens aillent y faire ?
Alors, moi, je modère ça. On ne s'ennuie pas sur Blue Sky ni sur Mastodon. Il faut évidemment savoir comment refaire une communauté, mais quand vous recréez des liens, vous ne vous ennuyez pas. Blue Sky, par exemple, c'est 40 millions d'utilisateurs. On est habitué à des mastodons de 500 millions, 3 milliards d'utilisateurs, mais si vous avez 40 millions d'utilisateurs, je vous promets que l'information est liée, si vous êtes bien organisé. Donc, en fait, il ne faut pas croire qu'il faut avoir 500 millions ou 1 milliard pour avoir l'info. L'information est liée. Donc, il faut juste avoir les outils et les manières, les bonnes pratiques qui sont un petit peu différentes sur les autres réseaux, mais elles y sont, et en plus, ces réseaux sont plus vertueux. Donc, quand on utilise, par exemple, Open Portability, on retrouve les connexions.
Et vous qui avez démontré scientifiquement le poids des robots sur Twitter, c'est-à-dire vous qui avez démontré scientifiquement le fait qu'énormément de tweets sont produits par des robots et non pas du tout par des utilisateurs humains. Vous diriez qu'il y a moins de robots ailleurs sur les autres...
Clairement. Les autres plateformes ont des politiques de modération des robots et de suppression des robots malveillants, alors que X, pas du tout. Au contraire, X utilise des robots. Et d'ailleurs, dans les 500 millions d'utilisateurs, il y a certainement un gros pourcentage de robots. Donc, et Personnellement, moi, je m'ennuie sur X. Donc
Tristan Manès-France se leurre complètement en pensant qu'il est au milieu d'une cour de récré de 500 milliards d'utilisateurs.
Non, mais si vous voulez, c'est des usages différents.
D'un demi-milliard,
vous avez
pardon,
un professionnel qui millions. S'intéresse aux radicalités. Donc,
oui, oui, oui.
Pour observer les radicalités, c'est fascinant. Mais pour avoir l'information ou des choses, d'autres choses, d'autres réseaux sont aussi bien. Après, il y a effectivement des communautés, je ne sais pas, peut-être, je dis au hasard, peut-être des communautés, certaines communautés de gamers qui n'ont pas bougé.
Mm-hmm.
Donc, ceux qui sont dans ces communautés-là ont intérêt à bouger, mais peut-être auront plus d'intérêt à rester sur X. Mais sinon, bon, voilà, il y a X, et puis il y a plein d'autres réseaux. Il y a plein d'autres réseaux plus gros, plus petits que X. Il n'y a aucune raison, en fait, de rester dans un restaurant qui a changé de chef et qui donne de la nourriture mauvaise, juste par compassion pour ceux qui sont restés.
C'est plus que de mauvaise. Bah,
c'est toxique,
carrément dangereuse
dire,
pour la
c'est,
santé.
C'est dangereuse. Voilà,
un dernier mot, quand même, sur la possibilité de réguler en droit européen.
Alors, la possibilité de réguler, si vous voulez, la régulation est louable, mais et c'est déjà ce qu'on disait il y a un an. C'est, vu les velléités de Donald Trump et le niveau militaire que donne Donald Trump aux infrastructures numériques, X et les autres. Hein, mais Vance avait dit, si vous êtes touché à X, on sort de l'OTAN. L'Europe ne peut rien faire. C'est-à-dire que les menaces sont trop fortes. Donc la seule démarche pour sortir de là, c'est l'esquive et par les utilisateurs, le changement de comportement. Et il faut accompagner justement le fait de la libre circulation entre les différents types de réseaux. Il faut accompagner la création de nouveaux services numériques attractifs, désirables ailleurs. C'est ce qu'on fait.
David Chavalarias, le HESS, le CNRS au micro de France Inter, face à Tristan Mendès-France, qui enseigne à l'Université Paris-Cité. Merci tous les deux pour ce bilan contrasté des un an de ce boycott. Fallait-il ou non rester sur X? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'imagine que vous allez en discuter toute la journée à la machine à café. Allez, on continue en musique avec Joshua Aiden et son single It Always Wise. Juste après ça, Charline et Daphné Burki.
With a little bit of luck and a handful of courage, we will make it through the night and out to where the sun is, where the love is. Manifesting with my mates, bright faced and beaming, backseat in Benji's Mazda. The world is loud but we sing louder. Pistol fingers through the window, my joy is a whistle, loud in its belief. After this something good is coming. My losses, they've taught me how to win. Maybe the reason I ain't that good at swimming, with wings, and the answer's right here in our hands. It always was. It's all down to us, and that much I trust. My friends, I see my own, and just as she spoke, all the lights turned green on our road. My friends hold me as I hold them, wish I told them more often. After dodging through the speakers, the morning rose to meet us. Sun on my skin, like all of my sins are forgiven. This is it, this is how we win, my friends. This is how we win.
Joshua Aiden, il chantait It Always Was, It Always Was.
Yeah.
Yeah,
oui,
thank you, Charline. Allez, il est 9h46 sur France Inter, vous êtes au cœur du magazine de la grande matinale qui se poursuit donc avec Charline et Daphné Burki, et la nouvelle tête de Daphné Burki qui vient de prendre place dans le studio. Charline, votre thème s'expose en trois mots, Trump, l'Europe. et le Groenland.
Eh oui.
Eh oui.
Parce qu'aujourd'hui, on peut lire ce genre de titre dans la presse. La France envoie des soldats au Groenland pour mettre la pression sur les États-Unis. Cette phrase n'a aucun sens. Et pourtant, c'est celui de la marche du monde. La France et l'Europe ont envoyé des soldats à Nuuk, la capitale du Groenland. Ça rappelle la guerre froide, sauf que là, c'est la guerre très froide. C'est des chasseurs alpins. Il paraît que... Merci Daphné.
C'est mignon.
C'est mignon. C'est la guerre mignonne. Alors, des chasseurs alpins, il paraît que la France est l'un des rares pays avec des régiments d'experts du grand froid entraînés aux situations polaires. Vous pensez qu'eux, quand ils ont une soirée prévue et qu'ils doivent partir en mission, ils disent ça aussi.
Bon, ma chérie, pour notre week-end en amoureux, j'ai pas une super nouvelle. En fait, je peux pas, j'ai grand frais.
J'avais clairement envie de me payer cette pub. On n'en peut plus, non ?
Depuis des semaines.
Mais des années, non ? Des siècles. On se casse la tête, nous, à écrire un nouveau texte tous les jours. Et les pubards, ils écrivent une bouse sur un coin de nappe et on l'entend 20 fois par jour pendant des semaines. Hein ? Allez, maintenant qu'on a perdu un annonceur, je poursuis. Les soldats en doudoune, donc. Des héros, les mecs. Faut bien regarder les décorations qui sont épinglées. Donc, et là, à côté de mon grade, c'est ma troisième étoile. Je l'ai eu à Avoriaz en 94. Une vraie chienlit, Sonia. Vraiment, je peux dire que j'en ai vu des frères tomber du tire-fesse. Non, parce que les chasseurs alpins, au départ, ils font ça pour ce qui est gratos. Pas pour faire la guerre, quand même. Mais donc, pour faire fléchir Trump, l'Europe n'a pas hésité à envoyer 20 000 soldats au Groenland. Ah non, pardon, 20 soldats. J'avais mal lu. Dont 5 chasseurs alpins français. 5 chasseurs alpins dans un territoire grand comme 3 fois et demi la France. Je ne sais pas si ça peut dissuader Trump, mais si la Troisième Guerre mondiale se joue à cache-cache, on a toutes nos chances. D'ailleurs, attention, parce que dans quelques mois, c'est les JO d'hiver qui commencent. Si vous voyez des Français à ski, avec des carabines qui pourchassent des Américains, pas de panique, c'est juste la finale du biathlon. Hein. Donc chez nos soldats du grand froid, la tenue de camouflage est blanche. Il n'y a rien de plus salissant. Mais c'est difficile à entretenir, le blanc. Hein. Bah, faut bien trier le linge. Imaginez qu'un sous-œuf oublie un caleçon rouge dans la machine. Il met en danger tout le régiment. En tout cas, cette fois, l'Europe veut montrer les muscles. Alors bon, l'Europe, elle va déjà commencer par prendre un petit abonnement à la salle de sport. Hein. Mais le Groenland ne se laisse pas faire non plus face à Trump. En représailles. Et attention Sonia, là c'est une vraie info, attention. Alors, ils vont désinviter l'envoyé spécial de Trump qui devait assister à une course de chiens de traîneau. Blam ! Voilà. Ah oui, mais ils font ce qu'ils ont. Hein. Et c'est vrai, il y a presque de la mignonnerie dans l'escalade de la violence, là, vous voyez. Donc Trump a été très clair sur ses intentions dans un courrier qu'il a adressé à la Suède. Hein. Vous vous rappelez, il a dit en gros, comme j'ai pas eu le prix Nobel de la paix, il n'y a aucune raison que je fasse pas la guerre. Un enfant de 5 ans accepte plus la frustration que le président des États-Unis. On en est là. Donc, je peux remplacer Pierre Aski pendant ses vacances, si vous voulez. Et oui, bah, la géopolitique, c'est devenu enfantin, quand même.
L'enfer.
Merci Sonia.
Géopolitique, tous les jours.
La grande matinale sur France Inter.
La mignonnerie de la guerre. Daphné Burquier, sa nouvelle tête.
Ah, mais oui, parce qu'il est 9h50, l'air de rien, nous sommes toujours en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Hélène Meillard. Elle est créatrice de bijoux et nouvelle star des réseaux sociaux. Et ça, je peux vous dire, c'était pas prévu. Elle fabrique des bijoux de perles qu'elle vend sur un marché breton. Et presque par accident, elle est devenue un phénomène sur Instagram parce qu'elle, ce n'est pas seulement son travail qu'on suit, c'est son flow. C'est ses coups de chaud quand elle dit « Oh, ce n'est pas ma tasse de thé ». C'est ses chapeaux de mariage à toute occasion qui donnent des vidéos qui atteignent le million de vues. Et cette semaine, elle publie un guide de savoir-vivre pour briller dans notre quotidien. Donc évidemment, il fallait que je vous la présente. Bonjour Hélène Meillard, bienvenue sur France
Inter. Bonjour Daphné.
Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation parce que vous êtes devenue une icône autour de moi. Et d'ailleurs, vous la suivez.
Je follow.
Je vous follow. Charline Vanhoenacker vous follow par exemple. On raconte aux auditeurs et aux auditrices, tous les samedis matins, on peut vous retrouver sur le marché du Dinard, par exemple, en Ille-et-Vilaine. Sur votre stand
juste,
de bijoux
juste
de perles.
L'été,
juste l'été, hein. Parce qu'il fait un peu froid, mais c'est quand même là que ça s'est passé. Des bijoux que vous assemblez à la main, votre main d'ailleurs. Et ce matin, on peut vous retrouver donc sur France Inter, parce que vous êtes devenue à 56 ans une Instagrammeuse qui affole les réseaux sociaux avec près de 1000 nouveaux abonnés par semaine, par moment. C'est complètement fou. Et puis, vous êtes une nouvelle tête parce que vous publiez ce guide de savoir-vivre. Est-ce que vous auriez imaginé ça un jour, Hélène ?
Mais non, mais c'est ça la vie, en fait. On ne peut pas tout programmer. Donc, on se destine à certaines choses à 20 ans, et puis à 30, et puis finalement, après, la vie va. Et puis
voilà. Oui, parce que vous avez fait Histoire de l'art, vous avez fait la Sorbonne, vous avez travaillé 10 ans dans la finance, et puis aujourd'hui, instagrammeuse et sur les marchés de dîner.
Ben voilà, c'est
histoire
ça, la vie.
Folle. Je m'en cache pas, je suis Hélène depuis quelques années, l'air de rien. Vous m'aviez fait sourire avec une vidéo et je suis pas étonnée que vous soyez en train de devenir un personnage de pop culture. Cette vidéo, par exemple, elle a fait 1 700 000 vues. Vous traversez la rue avec un chapeau jaune qui, au final, est presque plus grand que le couvercle jaune de la poubelle de recyclage qui vous tient compagnie à l'arrière-plan. Et vous avez toujours ce grand sourire en disant...
La saison des mariages reprend. Attends. Ah bah oui, c'est une phrase culte maintenant.
Elle est devenue culte.
Ah oui.
Et je suis pas la seule, et Charline non plus n'est pas la seule à vous suivre. Benjamin Biolay, Riyad Sattou, Vincent Dedienne, Christian Lacroix, la moitié des dragues de France, Josiane Balasco ou encore Karine Rothfeld vous suit sur Instagram, vous le saviez ?
Bah non. En fait, non, du tout.
Bah, je vous le dis, à quel moment vous vous êtes dit, c'est pas seulement moi, créatrice de bijoux, qui suis suivie, mais c'est finalement moi et mes aventures ?
À quel moment ? Dès que les vidéos ont commencé à marcher. Et puis on s'est dit, parler toujours des bijoux, ça a un intérêt assez relatif, même s'ils sont beaux. Mais c'est créer un personnage, parce que ça nous amusait. Enfin voilà, ça m'amusait de parler d'autre chose que des bijoux. Et de ne pas trop se prendre non plus au sérieux. Voilà, si c'est pour uniquement montrer sa jolie robe de mariage, enfin de cocktail et puis ce chapeau... L'intérêt est assez limité.
Donc, mais il y a tant de mariages que ça autour de vous ?
Ah, eh ben, il y en a pas mal.
Pas mal.
Il y en a pas mal. Alors, il faut dire que je suis à un âge où il y a tous les enfants d'amis qui se marient. Et on est pas mal invités.
Ah, oui. Ça donne des sacrés prénoms.
Donc il y a des mariages chaque année.
Ah bah, ah, il y en a une plus d'une dizaine.
Oh, oui.
Oui, oui, oui.
Oh, si non, vous suivez,
ça, c'est du boulot, ça. C'est
beaucoup de mariages. Il y a beaucoup d'occasions d'enfiler un chapeau, Sonia. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce manuel de savoir-vivre, à part le flair, évidemment, de votre éditrice ? Est-ce qu'il fallait renouveler quand même celui de Nadine de Rothschild ?
Ah bah, il faut sacrément dépoussiérer. Parce que... C'est un petit peu hors sol quand même. Et là, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Mais ce n'est pas du tout un livre élitiste. Et le savoir-vivre n'est pas élitiste. C'est même une urgence parce que finalement, c'est un peu une protection sociale invisible. Il faut aider, je pense, les plus fragiles, les plus modestes. Et c'est par ces petits riens, ces petits gestes de bon sens, eh bien, qu'on embellit un petit peu la vie de tous les jours.
Avant de l'ouvrir, ce manuel, on va donner quelques exemples. Je dois vous avouer un truc, vous m'avez fait quand même penser à Valérie Lemercier dans Palace,
bah oui.
Émission culte dont certaines générations se souviennent. Les gardiennes du bon goût, vous vous souvenez, le raffinement, l'art de dire des choses très poliment.
Ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe.
Eh oui, c'est dans cette émission cultissime que Valérie Lemercier s'est fait connaître. Elle donnait des conseils improbables, mais surtout il y avait quelques punchlines.
J'ai pris une de ces branlées au bridge, je suis pétée comme une raquette.
Ma sœur a un prurite anovulvaire, maman était ravie.
Non, vous, dans votre... Vous aimiez pour
alors
regarder.
Oui, ça c'était...
Ouais, d'accord.
Oui, ça j'aimais beaucoup. Alors elle forçait sur la voix.
Évidemment.
Et moi je ne force pas sur ma voix.
Non, c'est vraiment la voix d'Hélène. Et dans votre manuel, on apprend le savoir-vivre dans la vie de tous les jours, l'art de recevoir, le code de bonne conduite, les bonnes manières. Vous donnez même des conseils sur la façon de rompre et vous traitez de lâche ceux qui le font par lettre ou par SMS, que les choses soient claires. Pourquoi c'était important d'en parler comme ça ?
Oh, parce qu'il faut pouvoir aborder tous les sujets. Voilà.
Donc alors, je pense que... aujourd'hui, je vous ai donné une petite carte blanche. Je vous ai dit, si vous deviez lire un petit passage de votre manuel, ce serait lequel ? En avant-musique,
allez.
Hélène, c'est à vous.
C'est l'été, il fait beau, le soleil brille, la lumière est intense et vous croisez une personne de votre connaissance. Elle porte des lunettes de soleil, de celles qui ne permettent pas de voir les yeux. Vous bavardez avec cette personne... L'échange dure 5 minutes et à aucun moment vous ne voyez son regard. À aucun moment vous ne savez si cette personne vous regarde réellement quand elle vous parle ou si elle regarde ailleurs. Vous avez une impression désagréable, comme si la personne vous tournait le dos en vous parlant ou comme si elle ne levait pas les yeux de son smartphone. Votre impression est normale, ça ne se fait pas. Quand on rencontre quelqu'un et que l'on porte des lunettes de soleil, on se doit de les retirer, au moins durant les premiers instants.
C'est dit.
Et ben voilà. J'espère que Emmanuel Macron nous écoute.
Eh ben oui. On a tous vécu ce manque de savoir-vivre.
Voilà. Justement, hein, Macron, avant son allocution, il s'est platement excusé de porter des lunettes de soleil.
Le film de votre enfance, Hélène Meyer, c'est Mon oncle de Jacques Tati. Je me dis que c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs hein, que vous m'ayez cité ce
J'adore.
Film. C'est l'art du décalage, c'est l'autodérision, c'est une poésie très à la française. Ça vous a inspiré forcément,
ça
vous a
marqué. Ça m'a presque construit. Moi, je le regardais en boucle hein, à l'époque du collège. Voilà, ça
vous m'avez dit, je regardais pas La Boum, je regardais Mon oncle.
Ah, mais je suis même pas allée voir La Boum lorsque c'est sorti. Mais pas du tout intéressée par le sujet, mais vraiment pas. Alors que Mon oncle, mais je l'ai regardé en tous les sens. Et c'est drôle parce que je l'ai revu il y a à peu près 5 ans et j'y ai trouvé des choses que je n'avais jamais vues avant. En fait, c'est l'art du visuel et du sonore. Et voilà.
Mais c'est ce que vous maîtrisez. Improbable. Hélène, je vais vous dire un truc. C'est un compliment officiel. Vous pratiquez un art que peut-être vous connaissez peu, mais avec vos bijoux brillants, vos looks hyper chiadés à chaque occasion, vos poses comme ça en grand format, vos chapeaux XXL, cette féminité finalement que vous exagérez et vos grands sourires, je le dis officiellement, vous pratiquez l'art du drag. En fait, Hélène Meyer, vous faites du drag. Parce que vous êtes parodiée sur les réseaux sociaux, vous l'avez créé ce personnage.
Oui, bah oui. Sans le vouloir au départ. Enfin, ça m'est. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est arrivé comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu de moi, c'est un peu de construction aussi, hein, mais voilà.
Nadine de Rothschild aussi, c'est un drag.
Oui, en quelque sorte. En tout cas, le son qui vous définit le mieux, c'est la merveilleuse Rosemary Stanley. Ouais. On va entendre quelques notes. Parce que je vais quand même raconter aux auditeurs, il y a vos bijoux. Vous avez appris seule à tisser vos perles. C'est quoi votre pierre préférée en ce moment ?
Ah, moi, ce que j'adore, ce sont les perles de culture. Et effectivement, j'associe à mes bijoux qui sont en perles Miyuki, qui sont des perles en verre japonaises, un peu la Rolls de la perle, j'y associe des perles de culture. Et j'adore l'univers des perles de culture. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, précieuse ?
Bah, précieuse, d'abord parce que, un, j'aime ce qui brille, donc tout ce qui est précieux. J'ai toujours été attirée par les bijoux. Et puis, je trouve qu'il y a un pont avec... les précieuses du XVIIe siècle, et c'est une période que j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup étudiée en histoire de l'art. Donc voilà, j'étais partie pour faire un doctorat sur l'architecture du XVIIe, et puis bon, je me suis arrêtée net pour changer de vie, parce que voilà, parfois on change de vie radicalement, c'est une volonté aussi. Mais voilà, j'ai toujours été attirée par cet esthétisme, voilà, du grand siècle.
Avant de se quitter, Hélène Meyer, est-ce que vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter ?
Oh bah oui, pour tous mes followers, évidemment.
Comment on fait une dédicace ?
Voilà, je vous aime.
Ah, voilà.
Et puis, voilà, on peut tous s'inspirer du savoir-vivre pour mieux vivre ensemble. Voilà.
Merci beaucoup, avec
le sourire.
On redit l'éditeur de ce manuel.
Évidemment, ça se passe chez Robert Laffont et ça s'appelle « Briller par votre savoir-vivre » par Hélène Meyer, avec une préface de Stéphane Bern qu'on embrasse aussi au passage.
Voilà. Et qui sort le 22 janvier, donc jeudi.
Et rendez-vous à Dinard pour le renouveau du collier de perles, si j'ai bien compris.